Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. La fin du confinement, l'ouverture partielle des frontières, bref, la reprise de la vie dehors ne vont pas inverser miraculeusement la tendance. L'Europe enregistre une des pires crises économiques de son histoire, avec un recul de plus de 10% du PIB de la zone euro, nous dit le FMI. Au Royaume-Uni, on parle de la plus grande récession depuis 1706. Avec un taux de chômage qui atteint 10%, les Britanniques cherchent par tous les moyens à boucler les fins de mois. C'est le reportage en Angleterre de Marie Billon.
Rechma a puisé dans ses dernières économies la semaine dernière. À 43 ans, elle a perdu son emploi en janvier dernier. Elle avait été recrutée ailleurs, mais quand la crise du coronavirus est arrivée, tout a été annulé. Dans son secteur, le marketing de la construction, tout est à l'arrêt, dit-elle.
Je n'ai pas pu payer les taxes locales mensuelles, ni l'eau, la redevance télévisuelle non plus, et je me demande si je vais la renouveler. Je ne regarde pas beaucoup la télé de toute façon. On a demandé à faire une pause dans le remboursement de notre crédit immobilier, mais ça s'arrête le mois prochain. Et nos mensualités vont repartir à la hausse pour compenser. La seule solution, ce sera de s'endetter un peu plus pour faire face à la tempête.
Payer à crédit, demander plus de découverts à la banque, voilà ce à quoi se prépare Rechma. Pour l'instant, elle ne touche qu'environ 80 euros par semaine de chômage. Elle aurait bien voulu trouver un petit job pendant la crise, n'importe quoi, dit-elle, mais son compagnon est une personne à risque. En tant qu'entrepreneur de deux petites compagnies, il n'a eu droit à aucune aide. Il a cependant pu obtenir un prêt mis en place par le gouvernement pour faire face à la crise.
C'est de l'argent qui est destiné à l'entreprise. Mais si on n'a pas d'autre choix, si c'est la seule solution pour garder un toit au-dessus de notre tête et de la nourriture sur la table, alors on va devoir l'utiliser pour nos besoins personnels.
Rechma s'est tournée vers Excluded UK pour un peu de réconfort. Cette association a été créée en mai dernier pour tous ceux qui passent entre les mailles du filet de sécurité tissé à la hâte par le gouvernement britannique en mars. Sonali est l'une de ses cofondatrices.
Et nous avons décidé qu'il faut vraiment entrer dans une discussion avec le Parlement, le gouvernement, parce qu'il y a en fait 3 millions de personnes qui sont exclues. Et 3 millions de personnes, ça veut dire 10% des gens qui travaillent au Royaume-Uni, qui n'avaient pas de salaire depuis mars, depuis 3 mois maintenant, soit des employés, soit des dirigeants des sociétés, soit des travailleurs indépendants, freelance.
Les travailleurs indépendants représentent plus de 50% des personnes qui se sont rapprochées d'Excluded UK.
Nous avons cette situation de stérilité et avec les effets de Covid-19, en plus, il y a des gens qui sont vraiment dans une situation qu'ils connaissent pas. Ils étaient peut-être dans des situations précaires déjà, mais avec tout ce qui se passe avec Covid-19 et les gens qui sont exclus, le problème de dette, c'est vraiment un grand problème, ça c'est clair. Il y a des gens qui ont dû aller au ce qu'on s'appelle food banks.
Les banques alimentaires ont enregistré une forte augmentation des demandes. La Trussell Trust, l'un des principaux organismes du pays, dit avoir distribué 81% de plus de paquets de nourriture rien que les deux dernières semaines de mars. Certains qui n'auraient jamais pensé avoir besoin de cette aide pour se nourrir ont dû y recourir.
Il y a beaucoup de personnes qui ont jamais eu des dettes dans leur vie. Il y a des gens aussi qui ont dit que ils ont jamais pris le chômage. C'est une situation qu'ils connaissent pas du tout.
Gina Bodhost fait partie de ceux qui n'ont jamais été endettés auparavant. Elle est co-directrice avec son mari d'une société de stores et volets à Andover, au sud-ouest de Londres.
So when we started our business,
nous avons financé le lancement de notre business avec mes économies, jusqu'au dernier centime que j'ai durement gagné et mis de côté. Nous étions très fiers de ne pas avoir eu à emprunter. Nous n'avons même pas eu besoin de découvert. À la fin de la troisième année, nous avions complètement remboursé. Nous existons depuis 4 ans et aujourd'hui, nous avons maintenant un emprunt de 50 000 livres. Un emprunt garanti par le gouvernement. C'est le meilleur prêt qu'on puisse avoir en termes de taux d'intérêt, de conditions de remboursement, mais ça reste un prêt. On a toujours voulu éviter ça. Nous n'avions pas le choix.
that was the only choice available to us.
Gina a fondé l'association Forgotten, un équivalent d'Exclus UK pour les entrepreneurs.
The whole premise of having a limited...
Tout l'intérêt de fonder une société à responsabilité limitée est de faire la différence entre son argent personnel et le capital propre de son business. Mais en ce moment, beaucoup sont obligés de mettre toutes leurs économies jusqu'au dernier centime dans leur business pour le garder en vie et espérer rouvrir quand la crise sera passée. Espérer alors pouvoir gagner de l'argent pour se rembourser.
Parmi les 8000 personnes qui ont contacté Gina, certains ont dû vendre leurs biens ou même leur maison, retourner vivre chez leurs parents. Et ceux qui ont pris un prêt spécial de l'État se retrouvent aussi avec un handicap à long terme. Ils auront du mal à obtenir un prêt bancaire à l'avenir car cela affecte leur indice de solvabilité.
Et l'Italie est un des pays qui a été le plus touché par le Covid-19 et son économie va aussi beaucoup souffrir. Cela commence par une dette publique qui explose, Cécile de Barge.
Lorsque l'épidémie de Covid-19 a frappé l'Italie, le pays était déjà fortement endetté, à 135% de son produit intérieur brut contre 60% pour l'Allemagne ou 98% pour la France. Ajoutons-y un taux de chômage élevé, une partie importante d'économie souterraine qui rend d'autant plus vulnérables les travailleurs. Travailleurs au noir, une économie dépendante du tourisme qui représente en moyenne 13% du PIB national et qui a été touchée de plein fouet par les restrictions de déplacement. Et enfin, un confinement ultra strict pour tenter d'enrayer l'épidémie qui a fait aujourd'hui plus de 34 700 morts dans le pays. Le mélange est redoutable. Pour soutenir les entreprises et les particuliers, le président de la République italienne, Sergio Mattarella, a signé à la mi-mai le Decreto Rilancio, le décret pour la relance à hauteur de 55 milliards d'euros. Il doit stimuler l'économie. Évidemment, cette somme s'ajoute aux liquidités que le pays doit emprunter sur les marchés financiers, faisant ainsi grimper la dette publique. L'impact financier de l'épidémie Covid-19 sur le pays devrait être, selon l'OCDE, deux fois plus important que lors du crash financier de 2009.
Et pour relancer la machine, l'Union européenne, ou plutôt le couple franco-allemand, a lancé un vaste projet de soutien de 750 milliards pour l'économie. Sera-t-il accepté par les 27 ? Rien n'est moins sûr, car tout le monde n'est pas impacté de la même manière par la crise. Pour en parler, on retrouve Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Frédéric.
Alors, quelles sont les économies européennes les plus touchées par la crise du Covid-19 ?
Si l'on se réfère aux chiffres les plus récents tirés des dernières perspectives de l'OCDE publiées en juin, les quatre pays européens les plus touchés en 2020, avec une baisse de leur PIB comprise entre 11 et 11,5%, sont, dans l'ordre, l'Espagne, l'Italie, la France et le Royaume-Uni. Ces pays ont tous subi des confinements longs et rigoureux et ont enregistré le plus grand nombre de décès dus au Covid. Le reste de l'Europe est moins sévèrement impacté, notamment les voisins de la France que sont la Belgique, moins 9%, les Pays-Bas, moins 8%, et surtout l'Allemagne avec une récession limitée à 6,6%, du même ordre que celle qui frappe la Suède ou le Danemark.
Alors comment expliquer ces différences ?
Dans certains cas, elles reflètent des confinements beaucoup moins rigoureux, en particulier aux Pays-Bas et surtout en Suède, un pays qui, notons-le au passage, compte en proportion 5 fois plus de morts que son voisin danois. Quant à l'Allemagne, elle a certes connu un confinement moins coercitif que la France, ce qui a eu pour conséquence de limiter en mars-avril la chute du commerce de détail à 9%, contre une chute de 33% en France. En revanche, la production industrielle a baissé de plus de 30% dans les deux pays. Or, une forte baisse de l'activité n'a pas les mêmes conséquences selon le secteur.
Expliquez-nous cela, Daniel.
Eh bien, l'achat d'un bien saisonnier ou périssable ne se décale pas dans le temps, contrairement à celui d'une machine-outil ou d'une automobile. Résultat, sur l'année, la baisse de l'activité est plus forte là où le commerce ainsi que les activités liées au tourisme sont les plus impactées, comme c'est le cas en France, en Italie ou en Espagne. Cela explique aussi que dans ces trois pays, le redressement prévu de l'activité en 2021 ne compensera qu'en partie la baisse de 2020, alors que l'Allemagne aura alors rattrapé presque tout son retard.
Et quelles sont les conséquences de cette récession sur les finances publiques ?
Elles sont majeures. Les plans de soutien adoptés creusent les déficits publics et donc la dette publique, puisque les gouvernements se refusent à mettre en danger la reprise en accroissant les impôts. La dette publique va ainsi passer de 98 à 118% du PIB en France, de 60 à 83% en Allemagne et de 135 à 158% en Italie. Concrètement, tous les pays vont devoir emprunter beaucoup plus sur les marchés.
Alors peut-on dire que cette situation est soutenable? Va-t-on pouvoir rembourser ces montagnes de dettes?
Les gens ont tendance à assimiler à tort la dette publique avec les dettes des particuliers. Mais cela n'a rien à voir puisque les États empruntent quand ils veulent sur les marchés et n'ont aucune difficulté à le faire, les épargnants étant toujours avides de bons du trésor considérés comme un placement hyper sûr. L'affaire du remboursement ne se pose pas non plus vraiment dans la mesure où les prêteurs ont tendance à en redemander lorsque leur titre vient à échéance au bout de 2, 5, 10, voire 30 ans. En fait, les États n'ont à se soucier que de payer les intérêts, ce qu'ils font bien sûr toujours, sauf dans des cas très exceptionnels de crise financière aiguë, style Mexique ou Argentine, dans les dernières années du XXe siècle. Même dans ce cas, le FMI vient toujours à la rescousse pour que les détenteurs de titres publics ne soient pas spoliés. Théoriquement, il n'y a pas de limite à l'endettement des États, à ceci près que la charge de la dette peut devenir insupportable pour les budgets si les taux d'intérêt s'envolent. Or, il se trouve que depuis de nombreuses années, ils sont très bas et que les banques centrales veillent à ce qu'ils ne remontent pas. Reste bien sûr que la charge d'intérêt croissante de la dette limite les capacités d'investissement des États.
Et puis tous ces pays peuvent également compter sur l'Union européenne ?
Tout à fait. L'action de l'Europe à l'occasion de cette crise a été très significative au regard d'une perte de PIB estimée à environ 1500 milliards d'euros pour la seule zone euro en 2020. Il y a d'une part cet apport massif de liquidités de la Banque Centrale Européenne dans le cadre de son programme d'achat d'urgence pandémique. 1350 milliards d'euros seront ainsi consacrés au rachat d'obligations publiques et privées afin de faciliter l'accès à des financements peu coûteux aux agents économiques. Parallèlement, dans une démarche inédite rendue possible par un accord franco-allemand, l'Union européenne va pouvoir emprunter sur les marchés quelque 750 milliards d'euros dans le but de les redistribuer sous forme de prêts pour 250 milliards ou de subventions pour 500 milliards aux États les plus touchés par la crise, en premier lieu l'Italie et l'Espagne. Les États du Nord et l'Autriche, moins touchés par la crise, accepteront-ils de jouer le jeu de la solidarité? C'est tout l'objet du prochain Conseil européen des 17 et 18 juillet prochains.
Merci Daniel Vigneron, à très bientôt.
À bientôt Frédéric.
Voici pour 100 francs du thym, de la garrigue, un peu de safran et un kilo de figues, voulez-vous pas vrai? Un beau plateau de pêche ou bien d'abricot. Voici l'estragon et la belle échalote, le joli poisson de la Marie-Charlotte, voulez-vous pas vrai? Un bouquet de lavande.
Et en France, ce sont les plus précaires, les chômeurs ou les 2 millions de travailleurs pauvres qui sont les plus touchés par la récession. Pendant le confinement, des marchés solidaires ont vu le jour pour leur venir en aide. À Amiens, une ville du nord de la France, ce marché pourrait même devenir pérenne. Reportage signé Lise Verbeck.
Comme tomate, on a ça, il y a l'aspirin dans les frigos.
Le marché s'apprête à ouvrir et les bénévoles terminent de mettre en place les étals de fruits et de légumes.
Parce que là, il y en a, il y a à peu près, on va dire, une cinquantaine de personnes, là, à peu près. Hein.
En quelques minutes, une longue file d'attente se forme.
Voilà, vous prenez le temps, on essaye de rester à distance. Et ça commence par là, du coup prenez le temps de venir.
Daniel a rempli son cabas de produits bio. Cette maman seule avec trois enfants qui travaille dans une association d'insertion a de quoi voir venir pour quelques jours.
Ça me fait du bien de venir ici et puis prendre, surtout que c'est gratuit, parce qu'on est à la fin du mois. Donc en fait ça m'aide beaucoup, vu par rapport à mon budget. Je vis du premier jusqu'au 18, quand je paye mes factures, donc je suis un peu coincée. Donc quand j'entends un coup de fil en me disant « viens ramener, venez chercher », là je cours vite pour venir chercher.
Le marché en est déjà à sa 10e édition. L'idée est née pendant le confinement d'un coup de fil passé par un agriculteur qui souhaitait donner son excédent de pommes de terre bio à l'UNICEF plutôt que de les jeter. Et d'autres producteurs ont suivi le mouvement. Le marché a vite été un succès, les besoins ont été très nombreux et le sont encore, selon Assia, une bénévole à l'origine du projet.
La période de confinement, ça a été super dur, plus de cantine. Il y avait beaucoup de personnes qui ont perdu leur travail. C'était un moment super difficile pour eux. Et grâce à ce marché Solam, on peut nourrir des familles avec des produits de qualité, surtout c'est ça en fait, des produits bio.
Car c'est un point essentiel du marché solidaire, avoir de bons produits issus des circuits courts pour les rendre accessibles à tous. Lucien Fontaine, président de l'UNICEF Picardie.
Quand on est dans la précarité, la première chose c'est de se nourrir. Donc on sait très bien que les milieux les plus touchés par les problèmes alimentaires, par l'obésité, c'est dans les milieux les plus précaires. Donc notre objectif à nous, c'est pas juste de redistribuer pour redistribuer, c'est aussi de travailler avec les gens et les associations pour qu'ils puissent accéder aussi, comme tous, à cette alimentation qui est une alimentation saine. Donc il faut que les gens ils aient l'impression qu'ils aillent au marché comme tout le monde.
Le marché s'approvisionne toujours grâce aux excédents des agriculteurs, mais l'association a aussi noué un partenariat avec la Banque alimentaire. Et elle s'appuie sur les associations de quartier qui font le lien avec les habitants, mais aussi les étudiants très précaires comme Moussa.
En fait, pour le moment, je n'ai pas beaucoup de revenus parce que en fait, c'est mes parents qui m'envoient de l'argent d'habitude. Et la situation elle est compliquée dans tout le monde. Mes parents sont en Algérie. Pour eux, c'est le strict minimum parce que même mon père, déjà, il est devenu un chômeur. Mais en fait, un chômage partiel, c'est un peu compliqué.
Un petit coup, s'il vous plaît.
Alors,
je suis venue à pied.
Ah bah, pas de souci. Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Une bière, de l'eau, jus de pomme cassis, jus de rhubarbe, limonade.
Le marché a aussi permis de recréer un lien entre les habitants pendant le confinement en s'installant dans les différents quartiers populaires. Kéra n'habite pourtant pas très loin, mais c'est la première fois qu'elle découvre le lieu.
L'ambiance, tout ça, moi je trouve que c'est bien. Et ça lui a mis un peu du quartier, ça fait du bien.
Pourquoi?
Bah, de voir des gens qu'on connaît pas.
Waouh, regarde, ça c'est sa fille, c'est ma copine.
Le marché solidaire amiénois ne compte pas s'arrêter là. L'association projette de mettre en place une coopérative pour que les associations de quartier puissent acheter en commun des fruits et légumes aux producteurs locaux et ainsi mettre en place un circuit court au pied des immeubles à prix abordable.
En tout cas, l'épidémie et la crise semblent épargner un pays, officiellement en tout cas. En Serbie, le leader populiste Aleksandar Vučić n'hésite pas à manier la propagande, quitte à prendre beaucoup de liberté avec la réalité économique du pays, Simon Rico.
La Serbie a le meilleur taux de croissance en Europe. Voilà ce que prétendait Aleksandar Vučić peu après avoir levé l'état d'urgence il y a quelques semaines. Pourtant, selon les prévisions du FMI, de la Banque mondiale et de l'Union européenne, le pays devrait enregistrer un recul de son PIB compris entre -3,5 et -2,5%. Guère plus optimiste, le ministère serbe des Finances table sur une contraction de 1,8% pour cette année. Autant de pronostics que l'homme fort de Belgrade balaie d'un revers de la main. Devant les médias, il jure que la Serbie affichera en 2020 une croissance d'1% grâce à un très bon premier trimestre qui compenserait la baisse d'activité des mois suivants. Pour 2021, le rebond pourrait même être phénoménal, +8%, poursuit Aleksandar Vučić. Cette fanfaronnade se baserait sur les calculs de l'Institut de Statistique Nationale, mais leur pertinence pose sérieusement question, alors même que son directeur a tenu à insister sur le fait que tous ces calculs reposent sur des probabilités. Dans une Serbie entièrement sous contrôle, cet aveu à demi-mot laisse en vérité entendre que ces prévisions sont là pour servir la propagande du régime. S'il est vrai que depuis l'arrivée au pouvoir du parti d'Aleksandar Vučić en 2012, la croissance cumulée atteint le chiffre honorable de 13%, cela reste bien inférieur aux 20% de moyenne dans les pays voisins d'Europe centrale, pourtant plus riches. D'autant que cette croissance s'explique avant tout par un effet de rattrapage lié à l'effondrement durant les guerres des années 1990 et qu'elle ne se traduit pas dans les salaires qui augmentent très lentement. De fait, le prétendu miracle serbe se traduit surtout par un exode massif des jeunes vers les pays d'Europe de l'Ouest et du Nord pour chercher du travail et une vie plus libre. Et si le chômage baisse, dans le pays d'Aleksandar Vučić, c'est avant tout à cause de ses départs.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Pauline Leduc. Vous nous retrouverez aussi sur le site de RFI, Facebook et Twitter. Rendez-vous dès demain pour parler des migrants et comment ils ont été impactés par la fermeture des frontières et le Covid.